Je suis en compagnie de Bertrand Meheust. Nous parlons de la politique de l'oxymore, comment ceux qui nous gouvernent nous masquent la réalité du monde, paru en poche aux éditions La Découverte avec une postface inédite. Bonjour Bertrand Meheust.
Bonjour.
La question qui travaille votre livre est celle-ci. Les démocraties modernes possèdent-elles les ressorts nécessaires pour prévenir et affronter la catastrophe écologique due au réchauffement climatique? Vous défendez un point de vue qui peut être qualifié de pessimiste, à la différence par exemple d'un philosophe, Dominique Bourg, avec qui vous dialoguez. Vous écrivez que votre pessimisme est méthodique. Qu'est-ce qu'un pessimisme méthodique?
D'abord, c'est une attitude qui ne relève pas forcément de mes inclinations personnelles. Je ne vais pas m'étendre ça là-dessus. Je peux être ou ne pas être personnellement pessimiste, mais ce n'est pas la question. C'est une démarche, une méthode, donc. Ben, c'est une variante moderne du doute méthodique, en fait. L'idée, au fond, est très simple, comme toutes les idées qui sont dans ce livre, en réalité. Nous avons de bonnes raisons de penser que nous sommes engagés dans un processus de destruction de la biosphère. Alors, plus ou moins grave, plus ça prendra plus ou moins de temps, selon les analyses, etc. Mais enfin, il n'y a plus personne qui nie le fait. J'ai écrit ce bouquin il y a 7-8 ans, 7 ans, c'est maintenant, oui. Et le verdict, par exemple, du GIEC, donc ceux qui étudient le climat, était beaucoup moins pessimiste qu'aujourd'hui. En réalité, au fur et à mesure que les nouvelles arrivent, elles s'accumulent dans le sens de mauvaises nouvelles. Donc, devant cette attitude, il y a deux cas de figure possibles. Il y a le cas de figure de, disons, l'attitude de ceux qui disent « oui, mais la science nous sauvera de cette impasse en inventant de nouvelles technologies, en réparant les dégâts infligés à la biosphère, etc. » Et puis il y a ceux dont je suis qui pensent que, on reviendra je pense sur cette question, que ce n'est pas possible. Vous savez, la métaphore, il est facile de faire sortir le dentifrice du tube, mais impossible de l'y faire rentrer. Et donc, devant cette indécision, je prends le parti de l'hypothèse la plus sombre pour regarder la réalité en face. On peut prendre une métaphore très simple. Si un médecin me dit « ce bouton que vous avez là, c'est peut-être rien du tout, mais ça pourrait être le début d'un cancer. J'en voudrais beaucoup au médecin s'il ne me fait pas faire les analyses immédiatement. » Donc si vous voulez, c'est une attitude de bon sens, en quelque sorte, tout simplement. Bon sens étant pour moi le contraire du sens commun. C'est une appréhension de la réalité qui mesure toutes ses implications implicites, etc.
Bon. Ce qui ne fait plus du pessimisme une question de point de vue, mais une méthode intellectuelle.
C'est ce que je vous ai
dit.
Une
méthode disciplinaire.
Ça n'est pas, il ne s'agit pas de mes inclinations personnelles, qui sont ou ne sont pas pessimistes. C'est pas la question, c'est une méthode pour affronter une réalité qui est très inquiétante. Une méthode intellectuelle.
Une méthode qui permet de contester la thèse dominante que le marché couplé à la technoscience posséderait la capacité de s'adapter à tous les défis et serait par essence capable de résoudre les problèmes qu'il a engendrés.
Oui, ça c'est ce que disent ceux qui veulent sauver la démarche actuelle de notre société. C'est le discours dominant, c'est celui qu'on entend dans les grands médias, c'est celui de, comment il s'appelle, ce philosophe-là qui vient régulièrement au secours de la société de consommation. Il a écrit un livre avec Finkielkraut, j'ai un trou de mémoire. Peu importe. Et donc, je pense que cet argument n'est pas soutenable. Et, bon, il y a tout un tas de raisons logiques qui font qu'il n'est pas soutenable. Mais même s'il n'y avait pas... Donc je pense que si on se livrait une partie d'échec conceptuel, je l'emporterais. Mais même si ce n'était pas le cas, j'en reviens au pessimisme méthodique, de toute façon, il faudrait opter pour cette option, pour les raisons que j'ai dit. C'est une variante du pari de Pascal, en quelque sorte. Également.
Vous utilisez le concept de saturation comme explication à votre pessimisme méthodique. Vous reprenez cette notion à Gilbert Simondon, que l'on découvre ou que l'on redécouvre ces dernières années. Expliquez-nous ce concept de saturation.
Oui. Alors déjà, un mot pour Simondon. Hein. Comme vous le dites, c'est un très grand philosophe qui est en train d'être découvert, qui l'est déjà, je pense. Certains pensent même que c'est un des plus grands philosophes contemporains, qui a bâti, il a tenté de bâtir une axiomatique tirée de la physique, des sciences contemporaines, mais avec comme idée de la fournir pour les sciences humaines. Et cette axiomatique a pour but de fournir des outils pour penser tous les processus évolutifs, qu'il s'agisse du développement d'une lignée technologique, c'est là ça qu'il est parti, hein, le système des objets techniques tel qu'il l'étudie. Ça peut être le développement d'une société, ça peut être le développement de la psychologie individuelle. On pourrait l'appliquer à la Genèse et au développement des religions, c'est une idée qui m'intéresse beaucoup, ça n'a jamais été fait. Et donc l'idée, si vous voulez, que développe Simondon, alors il l'applique au niveau de la réalité, à la réalité biologique, à la réalité physique, à la réalité psychique. C'est un, si vous voulez, un concept très, très englobant. Et donc son idée est que tout processus évolutif passe par un moment donné, un processus va jusqu'au bout de lui-même. Il va jusqu'au bout de lui-même. Et c'est lorsqu'il arrive à la saturation de ses possibilités qu'il fait comme une sorte de bond par-dessus lui-même. Et à ce moment-là, il y a une sorte de cristallisation subite qui fait que de nouvelles solutions sont inventées. Alors ce qui est fascinant, c'est qu'il applique ça aussi bien au processus qu'on a, par exemple, dans la cristallisation d'une solution saturée, par exemple, de sel, aussi bien qu'à une société. Alors lui, dans la Genèse, comment s'appelle ce livre, enfin le grand livre qu'il a proposé pour étudier les phénomènes sociaux, il prend l'exemple de la Révolution française. Et donc, il montre comment la révolution éclate lorsque l'ancien régime est arrivé à saturation de ses possibilités. Et alors, lorsqu'il est arrivé à saturation de ses possibilités, un événement contingent quelconque peut déclencher le processus. Alors, vous prenez la Révolution française, c'est exactement ça. L'aristocratie était là depuis 1000 ans, on ne voulait pas se réformer, elle était arrivée où le monde moderne commençait. Et il y a arrivé plusieurs événements contingents. L'un de ceux-ci a été, je crois, une succession de mauvaises récoltes de blé, qui ont créé un début de famine. Et une fois que l'événement contingent se produit, alors il y a quelque chose qui explose, des nouvelles structures qui émergent, mais ça peut partir dans tous les sens, en bien ou en mauvais. Ça n'est pas du tout. Ce processus-là n'accouche pas nécessairement de quelque chose de meilleur et de positif. Un autre exemple qu'on pourrait donner du monde contemporain, c'est le nazisme. Bon, voilà. Donc, j'ai eu, si vous voulez, en lisant Simondon, à un moment donné, il m'est venu à l'idée, je me suis dit, mais c'est bizarre qu'on n'ait jamais employé cette idée pour penser le problème de la crise écologique. Parce qu'enfin, on est dans un monde clos, fini, dans lequel se développe un processus qui ne peut pas s'arrêter, qui est d'ailleurs hors contrôle depuis très longtemps, hein, et donc qui va finir par saturer tout l'espace disponible. Pas seulement l'espace physique, l'espace mental, l'espace des fréquences, par exemple de sonore, toutes les fréquences que vous voudrez. Donc il y a quelque chose d'inquiétant, de terrifiant lorsqu'on pousse ce concept jusqu'au bout. Et alors je me suis étonné que Simondon n'y ait pas pensé, mais c'est peut-être effectivement que les phénomènes écologiques étaient trop neufs encore pour qu'il y ait songé. Il est mort sans doute avant. Voilà.
Je vous cite, la mondialisation peut être caractérisée comme le moyen qu'a trouvé la civilisation libérale pour répondre à la saturation locale de ces systèmes et pour différer encore et encore la saturation finale.
Oui, bah c'est
ce que vous venez de dire.
C'est ce qu'on appelle les délocalisations.
Voilà.
Donc on est saturé quelque part, on délocalise, et puis une fois que ça commence à être saturé, par exemple lorsque la Chine, lorsque les ouvriers chinois voudront être payés normalement, on ira en Afrique, mais il arrivera un moment où ça ne marchera plus, forcément, puisque la Terre est finie.
Parce que ce que vous dites, c'est ce qui finira par saturer, c'est le système formé par le néolibéralisme et les efforts que ce système dépensera pour différer sa propre saturation.
Parce que à partir du moment où on peut différer la saturation, on fait que reculer le problème. C'est comme quelqu'un qui, au lieu d'arrêter de boire, multiplierait les médecines pour continuer de boire. C'est ce que d'ailleurs fait la publicité, qui nous dit « Vous pouvez continuer à utiliser ce produit, mais juste boire de l'alcool est dangereux, mais buvez ce whisky. Bon. »
Et ce concept de Simondon, est-ce que vous l'étirez un peu plus loin que lui, ce concept de saturation, ou est-ce que vous l'adaptez à notre situation actuelle de crise écologique ?
Écoutez, j'ai écrit ce livre un peu dans la solitude à Mayotte. J'étais un peu coupé de tout le monde. C'est vraiment le travail de quelqu'un qui est de solitaire d'abord. C'est un point. Je ne crois pas, je n'ai pas connaissance que quelqu'un l'ait employé de cette manière. Et donc, je ne suis pas un spécialiste de Simondon, soyons bien clairs, je n'ai pas écrit sur lui, je m'y suis beaucoup intéressé, mais je n'ai pas connaissance que Simondon aurait envisagé un cas de ce genre. Parce que lui, il imagine, si vous voulez, un domaine où l'expansion est infinie. On peut toujours, le processus peut continuer de se développer. Mais si vous prenez la planète Terre, nous sommes au moins physiquement dans un milieu fini. Alors le psychisme lui-même est sans doute infini. Mais il y a une tendance à le saturer par tous les moyens. Donc il suffit de voir ce que produit Internet actuellement. Prenons un exemple très simple, le djihadisme. Ça produit des effets terribles. Voilà. Donc, je crois que l'utilisation que je fais de Simondon n'est pas conventionnelle, et que peut-être même les Simondoniens fronceraient les sourcils. Je ne sais pas, j'ai jamais eu d'écho de Simondoniens à propos de ce livre, donc je ne sais pas.
Pour continuer avec le concept de saturation, vous arrivez à cette notion importante dans votre livre, Bertrand Meus, qui est celle de pression de confort. Vous analysez ce terme, cette notion de pression de confort.
Oui, alors je ne prends pas confort dans le sens étroit de avoir du bien-être matériel nécessaire pour mener une vie décente. C'est beaucoup plus que ça. C'est la pression de confort telle qu'on l'imagine aujourd'hui en Occident. C'est-à-dire, si par exemple, un événement cosmique, l'explosion d'une météorite nous privait d'Internet pour des années, ça déclencherait une panique mondiale. Ça fait partie de notre confort, y compris la consommation d'eau, la consommation de... toute la pression que nous exerçons sur la nature. Les téléphones portables qui sont faits avec les métaux rares de plus en plus difficiles à trouver. Tout ça, c'est la pression de confort. C'est ce que nous estimons indispensable à notre existence personnelle. Et donc, l'un des paradoxes du problème, c'est que c'est les démocraties qui permettent le développement de ce type de demande.
Parce que vous écrivez « Partout où l'individu devient, partout où l'individu devient une valeur centrale, ses besoins matériels s'accroissent avec l'étendue de sa sphère personnelle. »
Oui, c'est évident. Tout cela, c'est des évidences. Ça produit, mais on ne raisonne pas assez à ce qu'impliquent ces évidences. Oui.
C'est une évidence, mais c'est une évidence, cette pression de confort qui vous pose un problème éthique à vous. Je vais vous lire longuement, Bertrand Meust.
Allez-y.
J'écris ces lignes avec hésitation car je sais bien qu'on me reprochera de faire partie de ceux qui rêvent de réserver notre mode de vie au mode occidental. Nous arrivons ici au point le plus pénible de la discussion. Je ne rêve pas de préserver les privilèges des occidentaux. J'énonce simplement un constat cruel qui me semble difficilement contournable et que nous devons regarder en face, quelles que soient nos opinions religieuses, philosophiques ou politiques. Le mode de vie que nous avons promu et qui fait rêver la misère du monde, ce mode de vie n'est pas généralisable sous sa forme actuelle, sauf suicide de l'espèce. Les partisans du néolibéralisme se découvrent depuis peu une forte compassion pour la misère du monde et, pour justifier leur modèle de société, ils invoquent désormais la nécessité morale où nous serions placés de le répandre sur toute la Terre.
Oui.
Mais cette solidarité est une façade. Elle apparaît comme une astuce rhétorique lorsque l'on comprend que le modèle en question, sous sa forme actuelle, a pour caractéristique essentielle de ne pouvoir fonctionner qu'à court terme et pour une partie de l'humanité.
Oui, c'est une astuce rhétorique pour, que soutiennent les partisans de la croissance infinie, évidemment. Mais la vérité, c'est qu'une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Tout mon livre repose sur ce constat, évidemment. Et donc, on développe des astuces pour y échapper.
L'oxymore.
Alors, l'oxymore est une de ces astuces, c'est même l'astuce centrale.
Qu'est-ce que l'oxymore ?
Bon, alors là, c'est encore un immense problème. Vous savez, c'est un essai que j'ai écrit un peu à coup de serpe. Hein. Et évidemment, si j'avais procédé comme je fais d'habitude, j'aurais fait un livre de 500 pages sur les origines, les oxymores des origines à nos jours, et personne ne l'aurait lu. Alors en fait, c'est une figure de style qui fait fusionner deux réalités contradictoires. Le soleil noir, de la glace chaude, etc. Donc c'est une des ressources très anciennes de l'imaginaire symbolique. En ce sens, c'est très sain. Il est indispensable de recourir à des oxymores. C'est l'effort de faire fusionner les contradictions. Mais il se trouve, j'ai remarqué, que dans les sociétés en période de crise, il y a un usage malsain des oxymores par lequel on tente de faire fusionner des réalités contradictoires. Alors, l'oxymore le plus célèbre du XXe siècle, c'est le national-socialisme. Voilà. Et tout ce que ça implique aujourd'hui, comme vous le savez. Donc, le nazisme est un effort énorme pour mettre ces oxymores par la propagande dans la tête des gens. Le régime de Vichy a également eu recours massivement à des oxymores de ce genre. Et donc, je me suis aperçu que c'était un point central de la rhétorique, y compris de la publicité. Je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment qu'il existe une application sur le smartphone qu'on peut taper pour pouvoir essayer de se défaire des applications. Une application pour se défaire des applications. Alors là, j'ai trouvé que si j'avais connu ça quand j'ai écrit mon livre, j'aurais fait un chapitre là-dessus. Parce que là, on a l'oxymore mère, en quelque sorte, central. Et donc, vous voyez bien que c'est une sorte de piège psychologique. Il y a quelque chose de terrible là-dedans. En même temps, de comique, parfois, d'ailleurs. Hein, c'est toujours la limite. Alors bon, j'ai fait toute une collection d'oxymores. Il y avait des lecteurs qui m'en envoyaient auxquels je n'avais pas pensé. Il y avait Christine Lagarde en avait inventé un qui était très amusant, c'est la décroissance, comment elle appelait ça? Enfin, elle faisait fusionner le constat amer qu'on est dans une époque où l'économie tombe en panne, et puis la nécessité de la faire continuer, enfin de faire comme si ça continuait. Mais je ne me souviens plus de l'oxymore. Enfin bon, dans mon bouquin, il y en a des listes comme ça.
Mais l'oxymore est en même temps quelque chose que vous prenez très au sérieux. Ce n'est pas juste un simple jeu de mots de rapprocher les contraires. Je vais vous citer. Les oxymores surgissent spontanément dans toutes les sociétés pour atténuer ou résoudre les tensions qui les travaillent. Ils prennent dans la nôtre un essor inquiétant, sous l'impression du défi écologique, au point de devenir un poison mental et social. Bien, quelque chose d'assez grave.
Oui, vous savez, l'école de Palo Alto a parlé du double bind. Alors, le double bind, voilà, c'est la jonction contradictoire en français. Hein. Donc, si mes souvenirs sont exacts, Vaslavik dit ceci. Lorsque le double bind est porté sur quelqu'un avec une certaine, s'il n'est pas trop puissant, trop intense, c'est un stimulant pour l'esprit. Mais s'il est porté à sa limite, il en fout. Il en fout. Et je pense que on assiste actuellement à des exemples de folie collective, par exemple le djihadisme. C'est un produit, c'est une réaction des peuples qui se sentent gravement agressés par la société de consommation à l'occidentale et qui essaient de s'emparer de la technologie pour réagir contre cette situation. Et vous voyez ce que ça donne. Alors là, le nazisme est un bel exemple de folie collective aussi. Hein. Donc, l'exemple le plus achevé d'ailleurs. Donc, oui, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ça se produit quand une société est dans une contradiction insoluble.
Là, on est dans la phase psychique de la saturation.
Voilà. Alors, si vous voulez, moi, quand j'écrivais ce livre, j'avais plusieurs idées. Moi, quand je fais un livre, je procède toujours de la même façon. J'écris des fragments sans me soucier de... les choses que j'ai envie d'écrire sans me soucier de les coordonner prématurément. Et à un moment donné, il m'est apparu, l'évidence m'est apparue, c'est-à-dire le lien entre les oxymores et puis le processus de saturation de la biosphère. Nous sommes pris dans une injonction contradictoire. Hein, l'oxymore central, c'est que la croissance infinie dans un monde fini. Et donc les oxymores sont là pour essayer de masquer cette dérive, pour la rendre supportable, pour... d'abord, ce sont des arguments publicitaires, bien entendu. Vous savez que n'importe quelle publicité aujourd'hui, pour de la nourriture ou de l'alcool, il y a toujours le contrepoison. Hein. Publicité pour un produit gras et salé, vous avez la morale de la fable en dessous, débitée à toute vitesse. Éviter le gras sucré salé. Bon, voilà. Donc, les gens sont plongés en permanence dans cette contradiction. Et je pense qu'on pourrait analyser comme ça tout un tas de phénomènes sociaux en prenant ce fil conducteur.
Parce que vous étirez, on va revenir à Simondon avec ce concept de saturation, vous en arrivez à conceptualiser la saturation des désirs. Mmh. Et vous écrivez, Bertrand Meyers, que cette saturation des désirs est un des plus graves problèmes de l'humanité aujourd'hui.
Oui, je le pense, oui. Alors, puisque l'homme est surtout un être de désir, et la possibilité, prenons un exemple, la possibilité d'avoir instantanément toute la musique de la Terre dans mon ordinateur, et de pouvoir l'écouter à débit continu sans même avoir rien à payer. Autrefois, il y avait au moins la limite de l'argent, la difficulté de trouver l'information. Voilà un exemple. Mettez-vous maintenant à la place du chercheur. Quand j'ai fait ma thèse sur le mesmérisme, j'ai passé 15 ans de ma vie à la Bibliothèque nationale à chercher des documents difficiles à trouver. Ça avait quelque chose d'exaltant, d'excitant, une sorte de quête du Graal. Maintenant, cette documentation est sur l'ordinateur, j'ai plus qu'à appuyer le bouton. Si je vivais aujourd'hui, je ne ferais pas ce travail, ça me dégoûterait, je n'aurais pas envie. Donc, si vous voulez, les désirs sont saturés très rapidement. Je ne parle pas de la sexualité, enfin, etc., etc. Donc, l'idée que j'ai, c'est que dans un premier temps, la technologie moderne dope. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'excitation qui très rapidement se transforme en dégoût, en désintérêt, par l'effet de la saturation. Et on prépare une sorte d'effondrement psychique généralisé par cette saturation des désirs. C'est peut-être moi, je suis plus, par ma formation, mon tempérament, apporté à étudier ces réalités-là que les réalités économiques et matérielles. Voyons. Donc j'étais très sensible à cet aspect. L'impossibilité de, de se débrancher de ce système. De, vous voyez, on discute aujourd'hui beaucoup de, des gens qui ont l'addiction, Internet, etc. etc. Comment faire ? Alors, la question, c'est... Ça soulève des... Soit on admet que le système de régulation du psychisme humain continuera de fonctionner. Moi, quand je faisais mes études de lettres, de philo, on apprenait que s'il y avait le positivisme en face, il y avait le romantisme qui venait équilibrer tout ça, et ainsi de suite. Il y avait toujours la contre-tendance. Lorsqu'il y avait un abus de l'image, il y avait ceux qui détruisent les images,
les
iconoclastes, etc., etc. Bien. Donc, l'idée sous-jacente étant que l'esprit humain possède en lui les ressources pour surmonter toutes les situations dans lesquelles... C'est hegelien comme idée, si vous voulez. Je trouve que la situation actuelle permet de douter de ça. Dans un livre que j'ai fait après l'oxymore, la nostalgie de l'occupation, j'aborde cette question. Est-ce que ça n'aurait pas... par exemple, prenons la question de la saturation des désirs. Est-ce que des images, par exemple, la question des images, est-ce que un mouvement iconoclaste est encore possible aujourd'hui ? Parce que ce qu'on doit appeler de nos voeux, c'est un mouvement violent iconoclaste qui casse les postes de télé, les ordinateurs, etc., qui rétablissent un peu d'équilibre. Je dis ça tout à fait sérieusement. D'ailleurs, il y a des casseurs de pubs qui cassent effectivement la pub. Vous savez, il y avait maintenant il y a des écrans dans les métros. On a tenté d'installer ça. Il y en a qui les ont maculés, etc., etc. On tombe sous le coup de la loi. Enfin, bon. Est-ce que c'est possible ? Vous voyez, est-ce que la domination par le capitalisme de la planète entière permet les contre-tendances ? Est-ce qu'un jour, il sera possible d'avoir une réaction iconoclaste à la saturation des images, à la saturation des ordinateurs, etc. Est-ce que c'est possible ? Voilà, c'est la question que je me pose. Je n'ai pas de réponse sur cette question. Mais le pessimisme méthodique appliqué à cette question invite à prendre très au sérieux l'hypothèse que les contre-tendances, c'est plus possible. Et qu'on va vers un monde unidimensionnel qui ira jusqu'au bout de lui-même.
Pour conclure, Bertrand Meust, je vais lire le dernier paragraphe de votre postface à la politique de l'oxymore, postface actuelle, juste pour la réédition en poche. On m'a reproché la noirceur démobilisatrice du propos. Mais c'est se méprendre sur le sens de ce pessimisme. Comme le doute de Descartes, il est de méthode. Il s'agit de se placer devant la réalité à venir en ce qu'elle a de plus probable. Les optimistes sont soit des naïfs mal informés, soit des cyniques désinvoltes qui jouent avec la vie humaine comme on joue aux dés pour assouvir des fantasmes de toute puissance et, ou, pour servir les intérêts d'une caste. Bref, ce sont des nihilistes masqués alors que les pessimistes veulent encore préserver l'avenir. Et donc, pour finir, c'est un fond d'optimisme qui habite les pessimistes et un fond de nihilisme qui hante les optimistes. Mais nous sommes habitués à ce genre de retournement.
Oui. Ben oui, finalement, quand on regarde toutes les données du problème, les pessimistes, c'est quand même des gens qui essaient de réagir. Et les autres, ben, ils se laissent porter par le flux. Hein. Donc oui, j'aime bien cette sortie-là d'ailleurs, un peu paradoxale, ce retournement soudain. Ce que j'ai fait dans cette postface là, c'est que bon, depuis que le livre est sorti, j'ai recensé toutes les nouvelles qu'on a eues, les mauvaises nouvelles comme l'échec du Grenelle, de l'environnement, la destruction de la biodiversité, les nouvelles concernant le climat qui sont toujours pires que ce qu'on imaginait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on est bien obligé de reconnaître que c'est toujours pire que ce qu'on avait cru. La tendance, c'est plutôt ça. Il n'y a pas on n'a pas un coup de nouvelle qui d'un seul coup montrerait tout ça, ça s'effondre. Non, il n'y a pas ça. Et c'est logique, puisque le système exploite méthodiquement tous les créneaux possibles et ainsi de suite à l'infini. Il ne peut pas s'arrêter. Il persévère dans son être. C'est ma thèse centrale, en fait.
Merci Bertrand Meust.